Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième saison de Voices of Learning, le podcast qui donne la parole aux experts de la formation. Il y a des voix dans le monde de la formation et nous avons décidé de leur donner la parole. Ici, nous parlons contenu. Cette saison est axée sur l'évolution du contenu pédagogique, le point de départ et l'approche catalogue de formation. Puis, au cours des épisodes, nous nous tournerons vers une approche orientée Adaptive Learning et notamment Adaptive Learning sur étagère. Au programme, parcours de formation, culture apprenante, upskilling, gain de temps. Il y a des voix, écoutons-les. Aujourd'hui, l'objectif est de parler d'expérience apprenant. Pour ce faire, je suis accompagnée de Mathilde Mignot et Pierre-Yves Ivic, deux chefs de projet Segos. Leur témoignage permettra d'illustrer ces notions par des exemples concrets et apportera un éclairage sur comment créer une expérience apprenant de manière efficace. Et nous aborderons aussi l'impact de l'IA générative sur la création de contenu. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, bonjour, je suis Mathilde. Je travaille au sein des équipes sur mesure Segos en tant que chef de projet. Notre mission est d'accompagner les transformations de nos clients en concevant et déployant des projets de formation sur mesure.
Alors bonjour, je m'appelle Pierre-Yves. Comme Mathilde, je suis consultant au sein des équipes sur mesure. Je réalise l'ingénierie de formation, le pilotage de projets de formation pour tout type de clients.
Nous souhaitons remercier Domocio pour cette invitation. C'est un plaisir pour nous d'échanger sur la création d'expériences pédagogiques centrées apprenants. Nous l'aborderons en deux temps. Un premier temps pour définir les notions qui se cachent derrière expérience apprenant. Et un deuxième temps pour expliquer comment nous créons une expérience apprenant.
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il faut savoir que nous vous connaissons notamment à travers votre offre de formation sur étagère. Segos dispose également d'une direction Learning and Solutions qui offre des solutions de formation sur mesure. Pouvez-vous nous en parler plus en détail ?
Alors concernant Segos, nous travaillons au sein de l'unité Learning et Solutions, qui est une entité du groupe Segos avec pour objectif de répondre à des besoins de formation ciblés et spécifiques afin d'accompagner nos clients dans leurs enjeux, leurs défis de transformation. Alors les missions qui nous sont confiées visent quatre objectifs. Tout d'abord, professionnaliser, c'est-à-dire développer ou approfondir une expertise afin de garantir la maîtrise des compétences fondamentales d'un métier ou de faciliter l'évolution professionnelle. Un autre objectif consiste à accompagner les transformations et agir sur les compétences qui sont impactées par les transformations. C'est d'ailleurs une thématique sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants avec les notions d'upskilling et de reskilling. Nous avons aussi pour objectif, et c'est en quelque sorte le sel de notre métier d'ingénieur pédagogique, d'être en perpétuelle recherche d'innovation. Le but, la finalité étant d'avoir un temps d'avance en termes d'expérience apprenante, singulière à la fois sur le fond, sur la forme et sur la méthode. Enfin, nous faisons en sorte que notre expertise s'exporte et de ce fait, nous assurons la conception et le déploiement de solutions sur mesure à l'échelle internationale.
Étant donné que l'objectif du jour est de parler upskilling et des enjeux qui y sont liés, je vous propose qu'on s'oriente dans cette direction. Pouvez-vous nous donner votre définition de l'upskilling et du reskilling ?
Alors, en ce qui concerne l'upskilling et le reskilling, donc ce sont deux notions qui sont liées à l'évolution du contexte actuel, à savoir une forte mutation en termes de modèle économique et d'organisation du travail. Alors, il y a une étude d'ailleurs en 2016 du World Economic Forum Future of Jobs, donc qui prédisait que 5 millions d'emplois seraient perdus d'ici à 2020 et qui seraient notamment remplacés par l'intelligence artificielle, les robots. Alors cette même étude prédisait également la création de plus de 2 millions de nouveaux emplois, ce qui suppose donc pour la plupart donc, de ces emplois à créer, des compétences à acquérir ou à développer en informatique, mathématiques, architecture des réseaux et en ingénierie. Donc il y a un vrai constat concernant des métiers qui vont disparaître, qui sont voués à disparaître. Certains vont évoluer, d'autres sont à créer, donc n'existent pas encore. D'où l'importance de s'inscrire dans une logique d'upskilling et reskilling. Alors pour commencer par donc l'upskilling qui littéralement signifie la montée en compétences. Donc l'upskilling se dit de parcours de formation dont l'objectif est d'augmenter, de développer, de travailler en tout cas sur les compétences existantes afin de permettre la poursuite d'un même métier ou d'un même domaine d'activité, et ce dans un contexte donc de mutation du métier en question. dans le cadre d'une démarche visant à aider les personnes à acquérir de nouvelles compétences pour évoluer vers un autre métier, dans une optique donc de mobilité, nous parlons alors de reskilling. En France, on emploie particulièrement cette expression pour les personnes qui sont embauchées sans qu'elles aient donc de qualification ou la qualification requise pour l'emploi et que l'on forme pour développer donc leur employabilité. Je prends l'exemple d'une agricultrice qui souhaiterait se former au métier de l'informatique. Et donc cette démarche s'inscrit de ce fait dans une logique de reskilling, c'est-à-dire de reconversion.
Et donc, pourquoi créer une expérience pédagogique centrée apprenant ? Pourquoi est-ce un sujet d'actualité ?
Alors tout d'abord, pourquoi créer une expérience apprenant pour justement favoriser l'upskilling et le reskilling, comme le signifiait Pierre-Yves ? Il est important aussi d'en parler maintenant pour créer des parcours de formation au plus près des enjeux et des besoins des apprenants. C'est presque un pléonasme, en fait. Une expérience pédagogique est forcément une expérience centrée apprenant. Donc c'est la condition sine qua non pour développer les compétences, que ce soit dans le cadre de l'upskilling ou du reskilling. Donc ça, c'était pour répondre à ta première question. Pour répondre à la deuxième question, pourquoi est-ce d'actualité ? Pourquoi on en parle maintenant ? Nous identifions trois raisons principales. La première, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Tout va très vite. Donc, il y a des métiers qui disparaissent, qui apparaissent, d'autres qui évoluent. Donc, il y a une nécessité d'accompagner sans cesse ces transformations. Et qui dit transformation, dit engagement des collaborateurs pour accompagner ces transformations. Et qui dit engagement, dit individualisation des parcours. Donc, forcément, la création d'expériences centrées apprenants. Donc ça, c'est la première raison qu'on identifie. La deuxième raison, c'est les neurosciences qui nous apportent un éclairage scientifique sur nos pratiques en tant que designer pédagogique. Donc elles posent des piliers qui nous aident à concevoir des expériences apprenants et qui facilitent l'apprentissage. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur ces piliers d'apprentissage. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est l'apparition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle rend indispensable en fait, la création d'expériences centrées apprenants. Je fais référence ici à l'IA analytique et l'adaptive learning en particulier. On parlera plus tard de l'IA générative et de son impact sur la création de contenu. Mais donc pour reprendre l'IA analytique et l'adaptive learning, en fait, concrètement, il s'agit de plateformes tels que Domocio, qui proposent des parcours individualisés et adaptés aux besoins de l'apprenant. Donc le prérequis pour pouvoir concevoir ce type de plateforme est bien de concevoir des expériences centrées apprenants avec des mailles assez fines pour pouvoir proposer ces parcours individualisés. Voilà, donc en synthèse, pourquoi en parler maintenant ? C'est pour créer une expérience centrée apprenant et la condition fondamentale pour répondre à des enjeux d'aujourd'hui.
D'accord, merci Mathilde. Et plus globalement, selon vous, qu'est-ce qu'une expérience centrée apprenant et de quoi est-elle composée ?
Alors je rebondis sur les propos de Mathilde, toujours aussi pertinents d'ailleurs, qui rappelle que pour répondre aux enjeux d'upskilling ou de reskilling, il est capital de créer une expérience centrée apprenant. Ce qui revient à placer l'humain au centre du processus de conception des formations. Et cela suppose d'offrir une expérience sans couture, qui tienne compte, entre autres, des émotions des apprenants, de leurs ressentis. Donc une expérience apprenant doit nous inciter à penser le processus d'apprentissage comme une expérience centrée sur l'apprenant. Et pour ce faire, on distingue trois étapes. Donc la mise en action, l'acte de formation et enfin le transfert. Alors pour ce qui est de la première étape, donc la mise en action, c'est une phase durant laquelle l'apprenant s'engage dans son parcours de formation. Donc à ce stade, les collaborateurs découvrent le parcours ainsi que le contenu qu'ils peuvent aussi questionner, notamment en échangeant avec les participants à la formation, qui sont inscrits à la formation, au sein d'une communauté d'apprenants par exemple, ou alors échanger avec des parties prenantes du dispositif de formation. Donc c'est une phase qui pose la question de la préparation et de l'implication des apprenants dans les apprentissages et qui doit susciter l'envie, qui doit susciter l'intérêt. Je vais prendre l'exemple d'un parcours management que nous avons conçu et dont l'objectif était de développer les compétences de managers qui encadrent des managers. Pour la mise en action, il a été proposé à la fois un welcome kit digital qui intégrait des interviews filmées des sponsors du projet, des messages, des conseils, des fiches outils pour rappeler des bonnes pratiques ou éviter les écueils les plus fréquents. Et à ce Welcome Kit, nous avons en fait adossé une journée d'intégration qui s'appuyait sur des échanges avec les membres du COMEX pour mettre en perspective les enjeux de la transformation managériale dans un contexte de transformation profonde. Donc l'enjeu de cette phase, c'est vraiment de faire adhérer les collaborateurs au dispositif et aux objectifs donc, du dispositif. À la phase de mise en action succède donc l'acte de formation, qui doit là, cette fois-ci, donner envie à l'apprenant de s'impliquer dans les apprentissages. Et à cet effet, l'alternance des modalités pédagogiques s'avère déterminante pour soutenir l'apprentissage, notamment dans la durée. Il est donc indispensable de proposer des expériences de formation qui non seulement répondent aux besoins des apprenants et se transposent facilement, mais aussi génèrent des émotions positives. Le cadre, le format qui sont choisis doivent permettre de maximiser les apprentissages avec des contenus centrés apprenants. Donc, concernant le parcours management que je prends en référence, il avait été fait le choix d'un dispositif composé d'un tronc commun et de modules à la carte en fonction donc, des objectifs de montée en compétences de chaque collaborateur. Donc, il y avait une individualisation des parcours avec un auto-positionnement pour orienter les participants vers le ou les modules adaptés. Et donc, chaque module s'appuyait sur des modalités variées avec des capsules e-learning ou des autodiags en amont des modules, des sessions en présentiel pour les expérimentations et à distance pour les retours d'expérience. Alors, il faut savoir qu'en termes d'organisation, cela revient aussi à considérer que l'expérience apprenant repose autant sur des moments d'apprentissage formels qu'informels. Alors, qu'est-ce que j'entends par informel? Qu'est-ce que l'on entend par informel? Ce sont des temps d'apprentissage hors situation, de formation formelle, c'est-à-dire réaliser de la veille, des recherches d'informations sur Internet, participer à des conférences, des webinaires, des échanges entre collègues en situation de travail, et ce grâce au soutien, bien sûr, managérial, relève de moments d'apprentissage informel. Pour revenir au dispositif que je prends en exemple, la possibilité avait été donnée aux participants de s'ouvrir à d'autres pratiques et découvrir d'autres cultures d'entreprise en rencontrant notamment des décideurs ayant fait face à une transformation de leur marché. Donc chaque rendez-vous était organisé à la convenance des apprenants et chaque rendez-vous faisait l'objet d'un débriefing durant lequel les collaborateurs, les apprenants pouvaient effectivement faire part de leurs apprentissages, de ce qu'ils avaient appris, de ce qui les avait surpris ou au contraire de ce qui les avait confortés dans leur pratique. Pour terminer effectivement avec ce dispositif en trois temps, cela m'amène à parler de la phase de transfert donc, qui vient ponctuer l'expérience apprenant. Donc, c'est une phase durant laquelle le collaborateur continue à s'entraîner, à recevoir du feedback de son manager ou de ses pairs au sein de sa communauté d'apprenants. L'enjeu d'ailleurs pour le management est d'identifier les actions qui permettent d'accompagner et de faciliter le transfert en situation de travail. Donc la phase de transfert est aussi un moment de vérité, puisque c'est à ce stade que l'on se rend compte de la pertinence de la formation pour le collaborateur avec son métier ou futur métier. Dans le cadre du parcours management, que je décline, un programme de renforcement a été proposé aux participants et qui s'appuyait sur des modules d'entraînement sur la pratique du feedback positif et constructif. Donc voilà, pour répondre à la question relative à ce qui compose donc une expérience apprenant, les trois étapes clés, à notre sens, d'une expérience apprenante sont la mise en action, l'acte de formation et donc la phase de transfert.
C'est très clair, merci beaucoup. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Mathilde ?
Oui, donc pour compléter tes propos, Pierre-Yves, il nous semblait important d'apporter un petit éclairage scientifique sur les neurosciences. Ces étapes respectent les quatre piliers d'apprentissage des neurosciences, qui, soit dit en passant, valide les principes pédagogiques que nous appliquons depuis plus de 30 ans au sein de Segos. Alors, donc, ces piliers d'apprentissage, le premier, c'est l'attention. Une expérience qui favorise l'attention est, par exemple, un parcours qui présente des objectifs clairs et précis, en lien avec, évidemment, les besoins des apprenants. Donc, il est également structuré en étapes progressives, adaptées à leur niveau. Pas trop facile, pas trop difficile. Le deuxième pilier, l'apprentissage et l'engagement actif. Donc ici, chaque séquence du parcours et chaque étape du parcours intègre une activité pédagogique. Il s'agit de faire dire plutôt que de faire et de dire. Et le troisième pilier est le retour sur information. C'est le feedback, c'est un retour sur ce qui a été produit par les participants. Il s'agit ici de systématiquement intégrer des temps de débrief à l'issue d'une activité pédagogique. Et enfin, le quatrième pilier est la consolidation des acquis, qui consiste à passer du mode d'apprentissage conscient à un mode inconscient. Donc, en fait, pour faire référence à l'étape de transfert que nous évoquait Pierre-Yves, c'est ici qu'on s'approprie et qu'on fait une consolidation des acquis. Par exemple, on peut organiser des défis à réaliser en équipe ou individuel pour favoriser l'ancrage sur le terrain. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est ces étapes, outre les trois étapes qu'évoquait Pierre-Yves, on intègre l'apprentissage et les piliers de l'apprentissage dans nos expériences.
Vous nous avez parlé de l'expérience apprenant qui se compose d'étapes et que ces étapes respectent les piliers d'apprentissage. Maintenant, comment créer une expérience apprenant ?
En fait, on s'inspire des méthodes du design thinking et on parle de learner experience design. Je vous propose de reprendre l'exemple du parcours de management qu'évoquait Pierre-Yves. Donc, imaginez un grand groupe industriel nous sollicite pour créer un parcours management. Donc, premièrement, évidemment, on pose le cadre avec le client et les décisionnaires. Les enjeux, là, ici, étaient de créer une culture managériale commune à diffuser à travers le groupe et de monter en compétence les managers. Donc là, c'était notre mission. Ensuite, on commence la partie conception par enfermer pendant 2 jours les parties prenantes du projet pour un atelier de co-conception. Donc, dans cet atelier, il y avait des futurs participants, le chef de projet qui est côté client, des personnes qui se chargent du déploiement de formation côté client, et côté Segos, deux experts, Learner Experience Design, qui sont garants de la méthode. Et ensemble, on va co-concevoir la formation. Cet atelier de co-conception, il est fondamental pour nous, il pose les bases de l'expérience. Et il est structuré, cet atelier de co-conception est structuré en fonction des étapes de la méthode de design thinking. Donc la première étape est de rentrer en empathie avec nos futurs participants. Donc, concrètement, derrière cette étape-là, on va concevoir des personas. Ces personas reprennent des profils de managers, nos futurs participants. Donc là, la première matinée de la formation, on a conçu 3 personas. Un manager qui est expérimenté et vivant aux USA. On a conçu le deuxième persona qui est un manager plutôt junior vivant en Chine. Et un troisième persona qui est un manager de manager plutôt senior vivant en Europe. Donc cette étape-là, elle est clé car elle permet vraiment de commencer la conception en nous mettant dans la peau de nos futurs participants. Et on détecte via les personas les émotions possibles et les besoins avérés de nos futurs participants. Donc leurs contraintes, leurs irritants et puis leurs bénéfices à aller dans cette formation-là. Donc encore une fois, c'est vraiment primordial parce que notre clé d'entrée, c'est l'apprenant. Donc partir aussi de cette étape facilite le storytelling de l'expérience. Elle permet de raconter des histoires à partir de ces personas et ça humanise aussi le propos. Soit dit en passant, ces personas, on leur donne un prénom. Donc en fait, ils reviennent tout au long de la phase de conception et même après, puisqu'on essaye de les humaniser un petit peu. Donc ça, c'est cette première étape, l'empathie. Ensuite, fort de ces personas, on a identifié leurs bénéfices et leurs irritants éventuels, on va définir un challenge. Et ce challenge, c'est une question paradoxale qui est structurée comme suit, c'est-à-dire comment faire pour alors que. Donc sur la partie, sur le parcours de management que nous avons conçu, la question paradoxale était comment faire pour concevoir et déployer un parcours de formation management qui soit vraiment centré apprenant, alors que nos profils de managers sont hétérogènes et qu'ils considèrent ne pas avoir le temps de se former. Voilà, ça c'était notre challenge. Les étapes suivantes vont être de relever ce défi. Première étape, empathie. Deuxième étape, définir un challenge. Troisième étape, on passe en phase idéation. Et là, on crée les grandes parties de l'expérience. Ensuite, on propose de choisir un univers propre à l'expérience pour favoriser l'engagement et l'immersion dans ce parcours. Par exemple, c'est l'univers des JO. En ce moment, on parle beaucoup des JO. On se dit, bon, ben voilà, on va évoluer dans l'univers des JO. Ou alors, ça peut être la résolution d'énigmes avec Sherlock Holmes. Ou alors, ça peut être le voyage de planète en planète où on acquiert une compétence de planète en planète dans un univers un peu futuriste. Voilà, là, on laisse libre cours à notre imagination. On définit les grandes étapes et un univers propre. Donc, première étape, empathie. Deuxième étape, définition d'un challenge. Troisième étape, idéation. Quatrième étape, on prototype. Et là, on crée les itinéraires pédagogiques de chacune des étapes. Et on crée également des activités en lien avec l'univers que nous avons choisi dans la phase idéation. Le fait de choisir un univers permet de scénariser des cas, par exemple. Donc ensuite, il nous paraît aussi important ici de rappeler un fondamental sur la création d'itinéraires pédagogiques. Certains de nos auditeurs vont considérer que c'est un peu basique, mais ça nous semble important de le rappeler. En fait, chaque étape de l'expérience est rédigée en objectif pédagogique. Et un objectif pédagogique, c'est un objectif qui est rédigé du point de vue de l'apprenant, évidemment, et avec un verbe d'action. Par exemple, l'une des étapes du parcours de management peut être pratiquer l'écoute active et pratiquer le feedback. Donc, on se situe du point de vue de l'apprenant, et on a un verbe d'action. Rédiger un objectif pédagogique a plusieurs vertus pédagogiques. Un, ça permet de faire référence directement à une compétence, donc d'évaluer facilement la montée en compétence. Et deux, ça permet d'être pour le coup centré apprenant. Parce qu'à partir de cet objectif, on cible le contenu à apporter pour l'apprenant et on propose des formats pédagogiques adaptés. Donc je reprends les étapes, il y a l'empathie, la définition de challenge, l'idéation, le prototypage, et ensuite on intègre dans cet atelier de co-conception des phases de test pour vraiment vérifier que tout ce qu'on fait est validé et testé in situ avec d'autres participants. Donc on les appelle et on valide les étapes de création avec eux. Et ensuite, à l'issue de ces deux jours, donc on a un prototypage et on a testé le prototypage des grandes étapes, on conçoit les supports avec une méthode plutôt classique, avec des réunions de validation avec le client. Voilà comment on se propose de créer une expérience apprenant avec la Learner Experience Design.
Merci beaucoup Mathilde. Il y a une autre question que je trouve pertinente de poser. Tout le monde en parle aujourd'hui et son arrivée peut avoir un réel impact dans le monde de la formation. Je parle bien de ChatGPT, cette IA générative que tout le monde connaît et que certains utilisent déjà. Qu'en pensez-vous ? Quelle est sa place dans tout ça ?
Donc, alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que ChatGPT n'est pas le nom d'un jeu donné par des écoliers qui s'amusent et se divertissent en cours de récréation. Tout d'abord, donc voilà, il faut rappeler à nos auditeurs ce que l'on entend par IA générative. L'IA générative est une intelligence artificielle qui permet de produire ou générer des contenus tels que les images, les vidéos, les musiques, les voix, les textes, donc différents formats de livrables. Donc, quant à ChatGPT, donc littéralement Generative Pre-trained Transformer, c'est un modèle conversationnel en ce sens que c'est une IA générative basée sur les réseaux de neurones pour générer des textes de manière autonome. Ces réseaux de neurones sont entraînés sur un grand volume et une grande variété de données. Alors, l'IA générative suscitera des divergences d'opinion, de points de vue, des positions assez clivantes quant à son impact, à ses usages, notamment dans le domaine de l'information. Il serait pourtant difficile, voire même naïf, de ne pas prendre en compte les bouleversements qui sont induits par l'IA générative sur le métier de formateur et plus globalement sur les apprentissages. Aujourd'hui, donc, il y a des véritables interrogations, il y a des inquiétudes relatives aux limites en termes d'usage donc de cette nouvelle technologie, d'un point de vue aussi moral, éthique. Alors ces réticences s'avèrent justifiées, hein. Je pense notamment aux biais de formation, à la diffusion de renseignements qui peuvent être erronés, à l'atteinte de la vie privée ou la consommation énergétique, et qu'elles doivent nous inciter à instaurer un cadre normatif au sein de chaque entreprise quant à l'usage donc, de cette nouvelle technologie. Et d'ailleurs, ce cadre normatif peut aussi être renforcé par un garde-fou législatif. Pour autant, il y a un véritable enjeu pour les formateurs comme les apprenants à tirer parti des ressources offertes par cette innovation. Alors, déjà, du point de vue du formateur, l'IA générative pourrait être considérée comme un super assistant artificiel pour aider, par exemple, à générer des sujets de discussion et encourager de ce fait les apprenants à faire preuve d'esprit critique ou alors à résoudre des problèmes ou à aider à la rédaction instantanée d'une étude de cas contextualisée en utilisant en plus un ID pour que cette étude de cas soit présentée par un avatar en vidéo. Donc, je pense aussi aux enrichissements graphiques de contenus pédagogiques, de supports de formation, donc pour rendre nos visuels plus attrayants, plus engageants et donc générer des émotions. Pour ce qui est de l'apprenant, en tout cas du point de vue de l'apprenant, l'IA générative peut s'avérer être une aide pour poser des questions pertinentes à l'IA et challenger ses propres réponses. Et encore une fois, le recours à de l'IA générative doit inciter l'apprenant à conserver un esprit critique et son libre arbitre sur les conseils et contenus, au regard des conseils et contenus proposés par l'IA elle-même. Tout comme il le ferait d'ailleurs face aux connaissances ou aux propos d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice avec qui il échangerait. Donc finalement, ce rapport à l'outil, en tout cas cette relation entre l'humain et l'outil, me fait penser à la citation d'Albert Einstein qui dit « L'imagination est plus importante que la connaissance », en ce sens que le pouvoir créatif, dans un contexte en tout cas d'apprentissage, le fait de réfléchir à une situation formative où l'exercice de la recherche repose avant tout sur l'imagination du formateur ou de l'apprenant, alors que finalement l'accès intelligent au capital des connaissances est désormais commun et à portée de tous. Donc de ce fait, l'esprit de création, l'esprit d'imagination, mais aussi le sens de la curiosité, pour le formateur comme pour l'apprenant, fait valoir leur capacité à être différenciant et singulier.
En fait, déjà, on peut certifier à nos auditeurs que ça a été fait avec des cerveaux humains. Nous n'avons pas utilisé ChatGPT pour réaliser ce podcast et nous sommes en chair et en os dans un studio. Ce ne sont pas nos avatars qui parlent aujourd'hui, d'où parfois des bafouillements, hein, puisque l'erreur est humaine. Donc, sur l'IA générative et ChatGPT, en fait, pour reprendre tes propos, je vais te paraphraser, Pierre-Yves. Effectivement, on l'utilise en tant qu'assistant artificiel. Avec parcimonie. Et en fait, je voulais juste signifier ce que ça voulait dire parcimonie. Déjà, un, on l'utilise, ok. Parfois, on s'en inspire, mais avec parcimonie, c'est-à-dire sans oublier notre esprit critique, bien sûr. Donc, on ne prend pas pour argent comptant ce qui a été dit par ce type d'IA générative. Et puis, en fait, on garde toujours en tête que, contrairement à ce qu'elle dit, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle diffuse. Donc, c'était important pour nous de partager ça avec vous. Deuxième chose qu'on pouvait partager avec vous, c'est que l'IA générative nous incite encore plus à intégrer des compétences clés dans nos expériences, justement. Donc, à la fois, on s'en inspire parfois pour créer nos expériences, et à la fois, le fait que ça arrive, bah, dans nos expériences, on développe encore plus des compétences, c'est-à-dire on développe les compétences de développer l'esprit critique. On développe la compétence de vérifier et d'analyser une info. Ensuite, comment on est encore plus créatif compte tenu de ces IA génératives. Et puis, il y a aussi comment on rédige des prompts, comment on converse avec une IA générative. Et puis, il y a tout l'enjeu de vérifier les données qu'on donne à l'IA générative, à ChatGPT. On a vu dans la presse que parfois, il y avait des choses qui étaient diffusées au sein de l'IA générative et qui posaient des questions de données confidentielles pour les entreprises. Donc voilà, déjà, on, à la fois on s'en sert comme input et à la fois les compétences, l'IA nous challenge sur des compétences à développer. Et puis ensuite, on utilise dans nos expériences l'IA générative à des fins pédagogiques. C'est-à-dire qu'au sein de nos expériences, on aide les apprenants à utiliser l'IA. Par exemple, pour reprendre le parcours management, on peut faire une activité pédagogique qui est, messieurs, dames, les managers, utilisez ChatGPT pour préparer un discours engageant auprès de vos collaborateurs. Voilà, donc il y a trois choses. Attention, avec parcimonie, on l'utilise. Deuxième chose, c'est qu'on développe des compétences. Et troisième chose, c'est qu'on l'utilise avec des fins pédagogiques.
Merci beaucoup pour vos éclairages. Cet épisode touche à sa fin. Nous vous avons expliqué en quoi l'expérience apprenant répondait aux enjeux d'upskilling et de reskilling. Vous avez défini ce qu'est une expérience apprenant et qu'elle doit respecter des standards. Et enfin, nous avons vu comment on la construit avec la Learner Experience Design et l'utilisation de l'IA générative. Avez-vous d'autres choses à rajouter pour conclure notre discussion ?
Alors, en ce qui me concerne, je dirais que ce podcast témoigne de la nécessité de nous interroger constamment sur nos pratiques en matière de création de contenu pédagogique, a fortiori dans un contexte de transformation majeure d'un point de vue sociétal, mais aussi environnemental. Et à cet effet, il existe une méthode qui est à prendre en compte dans la mise en œuvre de parcours de formation, c'est le design systémique. Donc c'est une méthode qui nous amène et qui doit nous amener à ne plus seulement être centré sur l'apprenant en tant que tel, mais à considérer aussi les impacts sur la planète. Donc, ce qui questionne donc le champ du design responsable, avec notamment l'éco-conception pédagogique. Je prends l'exemple, par exemple, de ne plus faire se déplacer 20 personnes pour une même formation à un même endroit, sur une journée de formation ou sur deux jours de formation. Ça revient, par exemple, à demander à couper les caméras durant les temps d'exposé du formateur lors de l'animation de sa classe virtuelle. On peut aussi penser à réduire le poids des images, de nos supports, ou alors encore inclure des photos de personnes diverses dans nos illustrations. Parce qu'il y a effectivement aussi une exigence à avoir pour répondre aux enjeux d'accessibilité et d'inclusion. Donc voilà en ce qui me concerne. Pour faire valoir cette méthode innovante, je fais référence au design systémique qui est centré sur la pensée empathique. Eh bien, je laisse à Mathilde la conclusion de ce podcast.
Oui, en fait, cette nouvelle dimension de design systémique montre bien qu'en tant que professionnel de la formation, nous sommes nous-mêmes assujettis à l'upskilling. On doit constamment développer nos pratiques. Et là, en fait, ce design systémique et nous montre qu'on doit passer d'ingénieur pédago à designer d'expérience, tout en respectant des contraintes de plus en plus fortes, notamment de temps, de ressources, de budget. Et pour conclure sur une note positive, nous trouvons que ce passage d'ingénieur pédago à design d'expérience est tout à fait passionnant.
Eh bien, je n'ai qu'une chose à dire. Un grand merci à vous deux pour votre présence et votre investissement. J'espère que vous avez passé un bon moment et que nos auditeurs aussi.
Bien sûr.
Ça a été un plaisir.
C'était le podcast Voices of Learning avec Mathilde Mignot et Pierre-Yves Vivig de Segos. Nous nous retrouvons prochainement pour la suite de la saison avec un épisode axé sur le gain de temps. Comment faire gagner du temps à vos salariés pour acquérir des compétences clés dans le cadre de leur métier ? Et aussi à votre équipe dans la conception de parcours pédagogiques. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.